Bonjour. Alors moi, je m'appelle Anna Echassou. J'ai coordonné donc sous la direction de Frédéric Schuss le projet Participarc et je vais animer la table ronde qui va avoir lieu maintenant sur le thème conclusion du réseau Participarc, quels enseignements pour les institutions. Donc je vais demander à Nicolas Ngo, à Sylvain Retillon et à Sonia Zillard de me rejoindre. Jean-Michel Fourniaud du groupement d'intérêt scientifique démocratie et participation m'annonce qu'il a du retard, il n'arrivera que vers 15h. Et Céline Pelletier de la direction interministérielle de la transformation publique a demandé aussi qu'on l'excuse parce qu'elle a une autre urgence entre-temps. Donc, certains d'entre vous étaient là ce matin, vous avez pu prendre connaissance de nos travaux. Alors, Sonia a suivi avec assiduité tous nos travaux et toutes nos réunions. Et par ailleurs, en amont de la réunion, je vous ai transmis quelques éléments déjà. Et en particulier, je vais vous demander de vous exprimer tour à tour, si vous êtes d'accord. Et puis ensuite, nous prendrons des questions. Et quand Jean-Michel Fourniaud arrivera, eh bien, on lui proposera de se prononcer à son tour. Sachant que je vous avais transmis deux questions sur lesquelles je vous invitais à réfléchir avant de venir. L'une, c'était comment mieux appréhender les implications sociétales et les prendre en compte dans la mise en œuvre des politiques publiques. Et la deuxième question que je vous proposais, faut-il favoriser la transversalité entre les différents domaines, par exemple entre la culture, l'environnement, les arts, la santé, pourquoi pas, et comment faire? Et surtout, que mettre en place rapidement? Alors, je vous laisse prendre la parole.
Merci. Donc, Sylvain Retillon, je suis au ministère de la Transition écologique et solidaire et on a parlé pas mal d'un des programmes sur lesquels on a travaillé, qui est le programme Repère, qui a, sur une dizaine d'années, essayé de poser des éléments de réflexion autour de la recherche participative. La deuxième phase du programme, c'est sur celle-ci que je vais parler un peu plus, faire le lien avec les questions, c'était de savoir qu'est-ce que ce type de recherche apporte aux politiques publiques. On est un ministère, on n'est pas des chercheurs, et nous, notre point de vue, c'est la recherche participative, ce qui ne veut pas dire que c'est une vision exclusive de la question, mais si on se lance dans ces questions-là, c'est qu'on imagine que c'est quelque chose qui va apporter qui va nous apporter des éléments par rapport aux politiques publiques qu'on a à mener. Donc c'était un des objectifs du programme Repère, de voir est-ce que ce présupposé était exact et du coup quel type d'appui ça pouvait apporter sur les politiques publiques. C'était un programme de recherche qui était assez ambitieux les moyens mis en œuvre, mais plutôt dans la réflexion, qui était d'aller sur une vision assez poussée de la recherche participative, où on était vraiment dans la co-construction, là justement, la question était posée, depuis la question de recherche jusqu'à la production scientifique. On était plutôt sur une forme, pas moins de le côté science participative, de collection de données. Et les bilans du programme, c'était montrer que sur ce type de recherche, et je rejoins ce que disait Mme Bréchignac, en fait, c'est que dans le colloque qui a clôturé le programme l'an dernier, Pierre-Benoît Joly parlait de savoir actionnable, en disant que ce type de recherche, son apport majeur était que ça permettait de travailler localement avec des gens qui étaient concernés par une question qui émergeait du territoire, et que le fait de travailler ensemble collectivement avec des chercheurs, avec des citoyens, avec des habitants, ça permettait de contextualiser mieux les questions scientifiques et d'apporter des réponses qui pouvaient être beaucoup plus facilement appropriées par les acteurs du territoire. Donc on est sur, c'était l'apport majeur en conclusion de cette réflexion. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas sur de la production scientifique de haut niveau. il peut y avoir aussi de la production scientifique de haut niveau à partir de la recherche participative. Il ne faut pas faire une vision non plus totalement binaire, mais l'enjeu principal en tant que ministère pour nous, c'était de voir de quelle manière on pouvait arriver à mieux porter nos politiques, dans la mesure où c'est pas l'idée de mieux les faire passer, c'est pas du tout ça, mais c'est de plus être en réponse aux besoins réels des gens. Parce qu'on a des grandes politiques qui sont assez descendantes, on a des grands enjeux, des grands objectifs, mais ces grands objectifs restent, on constate qu'ils restent assez théoriques par rapport à la réalité de leur mise en œuvre. On a des grands enjeux sur la biodiversité, sur le climat, sur les mobilités, mais derrière, ça se heurte à des réalités locales qui ne répondent pas à une directive européenne. Donc comment on va passer de cette échelle directive européenne et des rapports mondiaux à une mise en œuvre concrète locale, il faut qu'on puisse travailler sur le fond avec sans perdre de vue ces grands objectifs, mais se dire comment ces grands objectifs peuvent être déclinés localement. Et là, on a besoin de passer par des phases un peu expérimentales. Il faut me couper, il faut me dire quand j'arrête. Donc ça, c'est un des premiers éléments. Et l'autre intérêt que je vois dans ces aspects-là, c'est que un grand ministère technique comme le nôtre, le grand par la taille déjà, hein, c'est énormément de domaines qui sont très cloisonnés. On parle beaucoup d'interministériel, je dis souvent qu'il faudrait qu'on fasse de l'intra-ministériel et qu'on arrive à travailler ensemble au sein du ministère et à traiter des sujets qui forment cette galaxie qu'est le ministère de la Transition écologique et solidaire. Or, au niveau recherche, on va s'appuyer, pareil, sur des logiques très silos. Mais quand on est sur le terrain, quand on est face à des habitants, eux, ça ne les intéresse pas tellement de savoir comment nous, on est organisé. La question qui se pose, elle vient de la réalité de ce à quoi ils sont confrontés, et de savoir si ça relève de la direction de la biodiversité ou de la direction des transports, ce n'est pas leur problème. Donc l'enjeu pour eux, c'est aussi de pouvoir dire, maintenant... Et de nous dire, mais ça, c'est votre problème. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est une réponse à cette question. Et organisez-vous quelque part pour apporter une réponse à cette question. Et organisons-nous pour trouver les réponses à cette question. Donc ça nous permet de nous remettre en question aussi là-dessus et de se dire, sortons de nos approches qui sont très efficaces. Il ne faut pas dire qu'on ne va pas quitter l'organisation thématique. Elle est utile. Si elle a été choisie, c'est aussi qu'elle répond à une forme d'organisation et de besoin. Mais comment on peut hybrider les choses ? On hybride en termes de personnes, mais on hybride aussi en termes d'approche, et ce qui permet de répondre plus précisément aux questions réelles. Après, sur certains points, je pense qu'il y avait pour répondre sur... Il me semble qu'il y a une notion qui est arrivée ce matin, c'est celle du plaisir. Et ça, je pense qu'il faut jamais le perdre de vue. Quand on est en appui aux politiques publiques, on pourrait avoir facilement l'idée de se dire, nous, on porte des politiques, on a besoin d'avoir des réponses, on a besoin de mieux d'être plus efficace. Donc, on va associer des gens à répondre à ce besoin. Mais si ce besoin, en fait, ne vient que de chez nous, ça ne marchera pas. Donc, il faut que ça puisse répondre que ce soit des attentes, et que ces attentes, la meilleure façon que ça marche, c'est que ça réponde à des besoins, à des désirs. Si c'est juste faire des cases à cocher, dire il faut faire de la participation parce que c'est dans l'air du temps ou parce qu'on a dit que c'était bien, ça ne marchera pas. Donc il vaut mieux pas en faire s'il n'y a pas de désir, s'il n'y a pas de plaisir. Et faut que nous-mêmes soyons très vigilants en tant qu'institution, ne pas perdre de vue ça. On n'est pas dans l'instrumentalisation du citoyen pour répondre à nos politiques. On est dans la co-construction d'une réponse à des enjeux politiques. Mais ça ne se fera pas uniquement si on est dans le côté contraignant et dans le côté inintéressant. Il faut que ce soit du plaisir d'abord. Et ça, c'est une notion à ne pas perdre de vue. Sur les questions de l'organisation, le programme européen nous a permis de voir qu'il y avait, et là aussi ça répond un peu à une question de Mme Brichignac, c'est comment garantir en quelque sorte qu'on ait une certaine qualité, parce qu'il faut, c'est pas parce qu'on fait du savoir actionnable qu'on doit faire n'importe quoi. Donc c'est le programme Repair a mis en place quelque chose de très intelligent, et je le dis facilement parce que c'est pas moi qui l'ai fait, une commission pluraliste qui permettait d'associer différents types d'acteurs pour la qualification des programmes de recherche. Il y a la science citoyenne en particulier qui était dans la commission. Donc on avait à la fois des chercheurs, on avait des administrations, on avait des associations, on avait toute une catégorie d'acteurs représentatifs des différentes parties prenantes qui pouvaient exister autour de cette recherche participative, des chercheurs de différentes disciplines, qui permettait de réfléchir sur qu'est-ce que c'est en fait, parce que c'est un objet qui n'est pas bien défini. On l'a vu avec les, ce que disait Frédéric Chaux sur la terminologie. Déjà, on ne sait pas exactement de quoi on parle, et on sent qu'on a besoin d'avoir une forme de définition. Mais cette définition, elle n'est jamais totalement. On peut l'avoir mis dans un dictionnaire en disant ce que c'est. On voit bien que dans la réalité, là aussi, c'est quelque chose de très fluctuant dont on a besoin d'avoir des précisions, et que ces précisions, elles vont se faire à mesure qu'on progresse dans la discipline, dans la pratique. Donc la commission, elle a permis de se poser des questions sur sur ces formes de recherche, et aussi l'autre aspect, c'était de labelliser les équipes pour dire les équipes qui viennent devant nous, on considère qu'elles ont une capacité de production qui est suffisante, enfin qui est intéressante. On considère qu'elles ont vraiment, elles font la place à jeu égal entre la partie citoyenne et la partie recherche. Et du coup, c'était une façon de donner des garanties à la fois à des éventuels financeurs, au monde de la recherche, aussi au niveau des associations, dire on fait pas, vous n'êtes pas utilisé uniquement comme un faire-valoir de chercheurs. Et ce type de gouvernance me paraît être quelque chose d'intéressant. Alors aujourd'hui, le programme est terminé, mais l'idée qu'on essaye de porter, alors on essaye parce qu'on n'est pas très nombreux et on n'a pas beaucoup de temps, c'est de développer cette commission qui s'intéressait uniquement aux thématiques de notre ministère, et se dire mettons-nous autour de la table différentes institutions pour élargir ça et faire non pas un point de passage obligé. Ce serait stupide de vouloir avoir une commission qui serait figée, mais se dire est-ce qu'on peut pas mettre en place une sorte de commission qui soit assez libre et assez ouverte pour que derrière on puisse le caractériser, qualifier des équipes et leur donner une possibilité d'être connues vers l'extérieur.
Très bien. Merci beaucoup. On fait dans l'ordre comme ça, du coup?
Oui.
Ok, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Nicolas Ngo, je dirige le département des relations entre sciences et sociétés au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et l'Innovation. Juste du coup pour vous préciser d'où je parle, c'est un département dont le périmètre est évidemment extrêmement large, puisque entre sciences et sociétés, on voit bien qu'il y a des interactions variées et nombreuses, et que grosso modo, quand on ne sait pas exactement où positionner un sujet, ça finit par tomber sur notre équipe. Et du coup, je suis très heureux finalement d'intervenir ici aux côtés de mes collègues du MTES et de la culture pour donner suite notamment à, je pense, un rapport qui a fait étape. Je pense que vous en avez parlé ce matin, il s'agit bien sûr du rapport Houllier. Et puis bien sûr, les recommandations formulées par l'Académie des sciences à l'occasion du G7 et dont je comptais bien me faire l'écho, et du coup je suis très heureux qu'elles aient été portées par de façon bien plus brillante que j'aurais pu le faire, par Catherine Bréchignac à l'instant. Et du coup, je pense que c'est un moment intéressant pour se positionner et réfléchir à la façon dont les recherches participatives, les sciences participatives peuvent participer à la conduite des politiques publiques. On le voit, je pense que dans les éléments de discours de nos décideurs au plus haut niveau de l'État, que ça soit dans les discours du Premier ministre dans sa récente déclaration de politique générale du 12 juin dernier, dans la prochaine loi de programmation pluriannuelle de la recherche qui est en cours d'élaboration au sein du ministère. C'est une préoccupation très importante de prendre en compte l'écoute et le dialogue avec la société. L'opinion publique, je crois que Sylvain l'a signalé tout à l'heure, est de plus en plus concernée, de plus en plus mobilisée par un certain nombre d'enjeux sociétaux des sciences. Je pense bien sûr en tout premier lieu au réchauffement climatique, mais aussi à l'intelligence artificielle, au big data, aux défis alimentaires, aux ressources énergétiques, à l'alimentation, à l'effondrement de la biodiversité, bref, j'en passe et des meilleurs. Et par ailleurs, en parallèle, il y a un climat relativement nouveau que je caractériserais plutôt de défiance, un climat de défiance vis-à-vis d'un certain nombre de paroles qui jadis faisaient autorité et qui minent le débat démocratique. Bien sûr, vis-à-vis des élites, on en a abondamment parlé ces derniers mois, les élites politiques, médiatiques, mais même scientifiques, et de manière générale, tout rapport à l'expertise est souvent remis en question par un certain nombre de théories obscurantistes ou complotistes. Un exemple parmi tant d'autres sur les anti-vaccins ou la propagation incontrôlée des fake news grâce aux réseaux sociaux. Alors bien sûr, c'est ou à cause des réseaux sociaux plutôt, ces rumeurs sont pas nouvelles. C'est juste que l'outil numérique favorise la propagation très rapide de ces infox, comme on dit en nouveau français. Et ces constats sont largement partagés par les acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et cependant, il faut bien être lucide aussi sur le constat, c'est que on ne sait pas exactement comment prendre en compte et faire face à cette situation. Comment peut-on se mobiliser efficacement pour traduire ces constats par en des actions concrètes qui pourront nous permettre de lutter efficacement contre cette situation. Je pense qu'il faut qu'on se dote réellement d'une doctrine qui soit ambitieuse, qui soit pleinement partagée par l'ensemble des acteurs, et il me semble que les sciences participatives, les recherches participatives font partie de la solution. Au sein de mon département, on s'occupe également d'un sujet qui s'appelle la culture scientifique. On est dans un haut lieu de la culture scientifique aussi au muséum, et puis je vois un certain nombre ici d'acteurs qui œuvrent à la promotion, à la diffusion et au partage de la culture scientifique en région ou à Paris, que ce soit les organismes de recherche, que ce soit les centres de culture scientifique ou les nouveaux centres de culture scientifique comme le Dôme à Caen, qui a organisé le congrès de l'ANSTI l'année dernière. Je salue Bruno Desseur au passage. Et je pense que ces lieux ont compris, et ces institutions ont compris qu'effectivement, le plaisir, l'écoute et le désir, comme le disait Sylvain Rotillon, sont des leviers actionnables pour mobiliser les citoyens à travers un certain nombre de projets qui sont multi-acteurs, pluridisciplinaires, et qui permettent de prendre le pouls de la société, finalement. Alors, du coup, je pense que ces sciences participatives, elles sont plus que jamais nécessaires pour se mettre à l'écoute. On est loin de la période, je pense, et de l'époque où les chercheurs, où les savants pouvaient se permettre de faire descendre en quelque sorte la bonne parole sur le grand public. On est quand même dans une époque, je pense que c'est une époque révolue, et il y a absolument besoin d'avoir, et notamment avec l'apparition d'Internet, il y a un besoin de partager ce que sont les connaissances, mais aussi comment elles sont élaborées. C'est-à-dire, finalement, les sciences, c'est des connaissances plus le code source qui permet de les élaborer, c'est-à-dire la démarche scientifique. Et si les chercheurs ont bien un rôle à jouer, c'est la transmission également, en plus des connaissances, mais aussi de cette démarche scientifique pour équiper, en quelque sorte, et partager l'esprit critique le plus largement possible au sein de la société. Pareil, il faut peut-être m'arrêter, parce que je perds le contrôle parfois quand je parle de ces sujets. Dans ce contexte, la science citoyenne, je pense que c'est quelque chose de nécessaire, parce que ça permet d'intégrer le savoir de plusieurs communautés, que les chercheurs n'ont pas forcément la science infuse, mais ils peuvent se nourrir également d'un certain nombre de savoirs qui émanent de communautés qui leur sont extérieures. Ça permet également de démocratiser les savoirs, de renforcer la place de l'expertise scientifique, d'être porteur d'innovation, et puis de découvrir un certain nombre de talents avec les dérives que parfois ça peut poser d'un point de vue éthique. Et Catherine Réchignac le précisait très bien à l'instant. Peut-être juste une notion, mais je vais aller très vite là-dessus, parce que je pense que vous avez sans doute évoqué ce sujet ce matin. Vous savez que quand on parle de recherche participative, il y a plusieurs façons et modalités d'associer les citoyens. Bien sûr, il y a la façon un peu élémentaire de les associer à des collectes d'informations. Il y a la façon, et Raphaël Degène le disait tout à l'heure, d'associer les citoyens aussi à l'orientation carrément des recherches. Et j'ai apprécié la réponse qui, effectivement, il y a la recherche pour la connaissance et la recherche au service de la société, et il y a quelques exemples comme ça qui sont frappants. Et puis il y a la science hors les murs, qui est de plus en plus accessible, si j'ose dire, et là-dessus je pense que, et l'avis de l'Académie des sciences le formule très bien, en termes d'éthique, de sécurité, il convient d'avoir une vigilance très importante à ces nouvelles façons de produire la science en dehors des institutions, et d'essayer d'établir un cadre et des modalités de co-développement, j'aime bien le terme, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'un côté la science institutionnelle qui s'embarrasse de règles, et de l'autre côté la science un peu sauvage qui se produise en dehors de laboratoires, indépendamment de toute réglementation. Et donc, si on ne met pas en place des structures et des passerelles entre ces deux mondes-là, on risque de renforcer la dichotomie entre ces deux univers. Peut-être un tout dernier mot sur le fait que les sciences participatives, pour moi, sont un outil du débat démocratique. On l'a vu, je pense, quand la démocratie est en danger, le premier réflexe, c'est d'essayer de faire en sorte de débattre. Et encore faut-il savoir débattre. Et je pense que les sciences participatives sont une des modalités aussi d'association du public. Il y a différents outils qui existent, mais dans leur transversalité qu'elles permettent, les sciences participatives peuvent participer au débat démocratique.
Très bien, merci. Merci pour ces mots donc des deux ministères de la transition écologique et solidaire, j'allais dire une bêtise, et puis de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Alors, comme je le disais, Sonia Szilard a accompagné de façon très assidue tous nos travaux, du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'aux recommandations. Donc, ce que je proposerais à Sonia, ça serait de reprendre un petit peu sur la base des travaux de Participar, qu'est-ce qu'ils ont apporté de nouveau par rapport à ce que vous escomptiez au départ, probablement. Et puis ensuite, la question que je posais, c'est que mettre en place pour que nos travaux et puis l'ensemble des travaux de la société qui vont dans le même sens puissent nous aider à avancer des points de vue qui ont été exprimés. Merci.
Merci Anna, bonjour à tous. Donc je ne vais pas, le temps étant limité, vous retracez l'histoire de Participar, mais effectivement c'est un moment intéressant, puisque quand nous avons lancé avec Astrid l'idée au sein du ministère de la Culture d'initier un travail d'analyse des recherches culturelles et des sciences participatives, Nous avions été inspirés largement, cela a été dit à plusieurs reprises, d'une part par ce programme Repère, qui porte parfaitement son nom, qui était un repère pour nous, d'autre part par le rapport Houllier, où, comme vous l'a dit Marilyn Laplace ce matin, le champ culturel n'était pas abordé. Donc, le défi, l'enjeu pour nous était de dire la culture est partout, la culture est pour tous, mais où est la recherche culturelle et où est ce volet de la recherche culturelle et des sciences participatives? Donc je crois que la première question et la première application que nous avons faite, c'était de mener ce qui serait souhaitable pour toutes les politiques publiques, probablement, mais c'est de faire un temps d'arrêt. De ne pas s'élancer avant de réfléchir. Il y avait des antériorités, il y avait des questionnements. Qu'est-ce que c'est? Pour qui? Dans quel temps? Avec qui? Et qui de mieux placé que des chercheurs pour contribuer à la constitution, aux orientations d'une politique publique? Je crois que là, c'était aussi un aspect innovant, au-delà des réponses qu'ils ont apportées, mais un aspect innovant de faire appel au monde de la recherche culturelle dans sa complexité, dans sa diversité, cela a été rappelé ce matin, en les associant avec d'autres parties prenantes. Je crois que ce terme n'est pas très joli, pas très politique, est très utilisé par les politiques, mais pas très poétique. Voilà, c'est un lapsus pas très poétique pour la culture, mais le mot partie prenante est important. C'est-à-dire, on avait là un ministère, les chercheurs à qui l'on confiait ce travail d'analyse, une des parties prenantes, mais également les institutions culturelles elles-mêmes et des représentants de la société civile et des centres de sciences. Donc déjà, ce premier attelage était pour nous une innovation. Confions aux chercheurs et aux parties prenantes la responsabilité de nous fournir, de nous proposer une méthode, des démarches, des recommandations. Donc je dirais qu'on avait d'emblée essayé d'initier une démarche participative sur un volet d'une politique publique. Pour revenir aux questions, je m'appuierai sur, sur le thème de cette année de l'AMSTI. J'ai beaucoup, et l'AMSTI est l'association des musées et de la culture scientifique, technique et industrielle. Et je veux dire, j'ai été inspirée par le thème qui s'appelle la reconnaissance. La reconnaissance, on a parlé de connaissance, mais on doit aussi parler de reconnaissance. Et je pense que c'est une transversale de nos propos d'aujourd'hui. Donc pour nous, le réseau qu'a-t-il amené pour nous ? Il nous a amené, entre autres, alors ce matin, il y a eu des matrices très compliquées. On est dans un secteur compliqué, complexe, divers. Et j'ai pris le parti de m'adresser sous la forme d'une liste, parce que j'ai un petit peu simplifié le propos dans le temps. Donc, les reconnaissances. Quelle reconnaissance ? La reconnaissance d'un champ particulier de la recherche culturelle. Déjà, il y avait au départ un questionnement. Qu'est-ce que la recherche culturelle ? La recherche culturelle est la recherche qui s'intéresse à tous les champs de la culture. Réponse rapide, mais simple. Et dans ces champs de la recherche culturelle, ce réseau a clairement identifié qu'il y avait, et c'était une question de départ, qu'il y avait un volet particulier de la recherche culturelle et des sciences participatives. Il y avait, dans les hypothèses de départ, une cartographie très large, mais aucune certitude sur le fait que ce champ soit réel, existant, au-delà d'expérimentations ou de projets très intéressants, mais épars. Cette reconnaissance aussi, c'était reconnaître également que les sciences humaines et sociales. Je crois que quand on parle de recherche culturelle et sciences participatives, ces sciences humaines et sociales sont particulièrement bien nommées, peuvent faire partie des champs de la recherche où les sciences participatives peuvent se déployer. Je crois que ça, c'est un point extrêmement important. On a d'autres exemples dans d'autres secteurs. Et là, il faut aussi qu'il y ait cette ouverture à ces champs scientifiques dans leur complexité, puisqu'il y a participation ou observation de la société en présupposé scientifique. Reconnaissance du travail des chercheurs. Pour nous, c'est un apport. Une reconnaissance du travail des chercheurs et des professionnels de la culture, parfois pionniers, initiateurs dans ce domaine. On sait combien il est parfois difficile d'être un innovateur. Donc je tiens là à souligner cet apport qui est la reconnaissance de ces travaux de chercheurs. Ils sont parfois isolés, ils ont parfois des difficultés. Les professionnels de la culture dans leurs institutions mènent ces projets dans un secteur qui est lui-même parfois en manque de reconnaissance. Reconnaissance de l'apport des citoyens à ce type de démarche en termes d'enrichissement de connaissances, en termes d'engagement à titre personnel. On a vu les liens avec l'histoire familiale ou personnelle, des liens de curiosité, mais au-delà de ça, et un lien qui est extrêmement précieux pour nous tous et aussi pour le ministère de la Culture, et c'est le lien d'engagement sur un bien commun. Le bien commun est une notion qui est extrêmement importante pour nous tous et aussi dans le monde culturel. Et également ce matin, sans concertation, et je crois que vous l'avez abordé, Nicolas et Sylvain, on a cette reconnaissance des institutions. Mais que seraient les institutions sans les gens, les habitants, les citoyens, et l'émergence de la reconnaissance des territoires. Et là, je vois là la nécessité de prendre en compte l'approche spatiale, géographique, temporelle des territoires. Et on a là une espèce de paradoxe d'apport de la complexité où on a des outils numériques qui facilitent la participation, qui déterritorialisent en quelque sorte le citoyen, l'institution qui la challenge, qui la met en question. Mais on a, avec les sciences participatives, dans le domaine de la recherche culturelle, une question qui revient à la question territoriale. Ce qui montre qu'on n'est pas nulle part, on est quelque part, dans un environnement multiple, mais on a, l'environnement est multiple, mais l'individu lui-même, qui est l'individu unique qui participe à nos multiples propositions, est lui-même ancré dans un territoire. Et c'est peut-être, Marine Laplace l'a évoqué ce matin, ce besoin et ses attentes en matière de proximité des politiques publiques. Donc là, c'est un premier volet sur les apports au ministère de la Culture. Et je crois, pour conclure, une liste, non pas de recommandations, un apport qui va au-delà de, au-delà d'un colloque, au-delà d'un rapport, et qui est un apport important, c'est créer un lien de confiance entre les parties prenantes. On a parlé de la défiance envers la science, la défiance envers les institutions. Que peut faire un travail en réseau ? C'est créer un lien de confiance. Vous prenez des inconnus, des étrangers, ils sont ensemble enfermés pendant 18 mois sur des sujets différents, et ils ressortent en ayant créé entre eux un lien de confiance, et je l'espère, vis-à-vis des institutions aussi, un lien de confiance. Une nécessité aussi, dans les apports, de prendre en compte la complexité. J'ai appelé à la simplicité, mais il ne faut pas nier les difficultés. Il y a une grande complexité dans ces démarches. Une complexité qui est à la fois liée aux institutions, liée au programme, à nos façons de réfléchir, parfois trop en silo. La complexité, on l'appelle tous de nos voeux, mais ça fait peut-être 30 ans qu'on appelle la pluridisciplinarité de nos voeux. On voit là qu'on a, on a là une complexité, une difficulté. Mais en apport, la difficulté est un apport. Tout ce qui est frein est un apport. Et pour terminer le propos, je dirais que pour la culture, plus spécifiquement, l'apport en termes de politique publique, quel impact pour la culture, c'est que les travaux que vous avez menés dans le cadre de cet atelier s'inscrivent dans la posture qui est du ministère, qui est encore du ministère de la Culture, de passer d'une posture d'offre culturelle, une offre culturelle très, très riche, très abondante, partout, sur le numérique, à une problématique d'accès à la culture. L'accès à la culture, ouvrons les portes, faisons en sorte de mettre en action les politiques de démocratisation culturelle. Mais ce que nous apporte ce réseau, c'est au-delà de l'offre, au-delà de l'accès, qui sont peut-être des approches un peu technocratique ou qui pourrait être qualifié comme tel, c'est de prendre en compte. Et là, je crois que c'est Frédéric qui a dit de ne pas être sur des injonctions, mais des adhésions, mais de prendre en compte les transformations de la société. Et ces transformations de la société sont là pour modifier, pour que nous puissions modifier ensemble les politiques publiques et les politiques culturelles en particulier.
Merci beaucoup, Sonia. Alors, il nous reste une vingtaine de minutes. On va passer aux questions dans un instant. Cependant, j'en ai une parce que, en tant que donc coordinatrice du projet, et puis, alors, il a fallu, on est en train, comme on le disait, de rédiger un rapport. Il y a ce colloque aujourd'hui, il a fallu faire des choix. Mais une des thématiques qui est ressortie très fortement, c'est l'évolution du métier de chercheur. Et je voulais m'adresser à M. Ngo et lui demander dans quelle mesure le ministère de la Recherche, de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation prend en considération toutes ces mutations qui se profilent et qui sont déjà très, très importantes. Hein. Le métier de chercheur évolue très fortement du fait de ces ces pratiques renouvelées, plutôt. Donc, je voulais savoir ce qui se passait du côté du ministère de ce point de vue-là. Merci.
Alors, j'essaie de rassembler quelques idées que j'ai eues en écoutant votre question, mais effectivement, je crois que la société évolue, les métiers évoluent, et donc il n'y a aucune raison que le métier de chercheur n'évolue pas. Il est évidemment bousculé, interpellé, challengé, comme on dit en français, par les nouvelles technologies numériques, et pour le meilleur et pour le pire. Et donc il y a bien sûr une prise en compte de ce nouveau contexte au sein du ministère. Pour tout vous dire, j'étais ce matin avec Bernard Laroux-Turoux, donc le directeur général de la recherche et innovation, pour travailler sur l'aspect sciences et société dans la future loi de programmation pluriannuelle de la recherche, à laquelle on contribue un certain nombre d'acteurs qui sont présents dans la salle. Je les salue au passage. Sachez que donc ces contributions ont été largement remontées, comme on dit, relayées, centralisées et écoutées. Je crois qu'elles sont entendues et je crois que c'est un mystère pour personne. Je crois m'être déjà exprimé sur ce sujet. La ministre souhaite réellement porter un axe fort sur cette dimension-là dans la future loi, ce qui n'est pas une occasion qui se présente tous les jours. Donc c'est pour ça que je me permets de m'appesantir dessus. Je pense qu'une des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille et sur lesquelles il y a un enjeu à mettre à l'agenda actuellement, c'est réellement la reconnaissance de l'engagement des chercheurs qui s'associent aux associations, qui se mettent en partenariat avec d'autres professionnels, avec des représentants de la société civile au sens large, pour en quelque sorte hybrider, j'aime bien le terme, leur pratique en s'enrichissant en quelque sorte des compétences et des savoirs d'usage expérientiel de la société civile. Et je crois que ce sujet de la reconnaissance, comme le disait Sonia, est important, pour, notamment dans l'avancée des carrières des chercheurs. On sait bien qu'aujourd'hui, ça fonctionne parce que les chercheurs sont des gens passionnés qui ont envie de partager leurs connaissances avec le grand public, que certains le font un petit peu comme ça, de façon empirique, et puis d'autres ont le réflexe de se tourner vers des professionnels de la médiation scientifique pour le faire. Et je crois qu'il faut qu'on donne là aussi une sorte de structuration, de cadre autour de ces nouvelles modalités de collaboration, et surtout qu'on le reconnaisse. Ça, je crois que c'est vraiment important, que ça soit pas uniquement sur la base du bénévolat, de la passion, de l'envie de s'engager, mais aussi que ce soit un moteur pour les individus comme pour les structures. Voilà.
D'accord, merci. On va prendre d'autres questions maintenant. Hugo ?
Oui, alors c'est pas vraiment des questions, on a recueilli des bribes de phrases. Alors on parle beaucoup d'approche pluritransdisciplinaire, dialoguer entre les citoyens, entre les disciplines, d'interopérabilité, de décloisonnement, sortir des cases disciplinaires, tout en maintenant la substance et la capacité de synthèse de la recherche, hybridée, articulée, demande des participants et capacité analytique des chercheurs. Mais là, la question qui revient peut-être le plus, c'est au sujet des institutions et des ministères. Peut-on, doit-on accentuer la mise en commun des moyens, les synergies politiques et la transversalité ? À vous.
Un début de réponse. Hein, ne croyez pas que je vais répondre entièrement à cette question, donc qui est une conviction. Si j'ai parlé du tout, le tout qui était la société. Le tout politique appelle aussi, bien sûr, à un travail en commun entre les ministères, avec les ministères, parce que, je dirais, nous nous adressons de la même façon, les uns et les autres, au même unique qui est l'individu. Donc, bien sûr, accentuer le travail interministériel. Et je crois, Nicolas, tu faisais référence à un discours du Premier ministre et des circulaires du mois de juin qui appellent très fortement les services des ministères à modifier leur façon de travailler et de travailler de façon plus intense en interministériel. Donc je crois que là aussi on a un basculement, les chercheurs pas tout seuls, mais les fonctionnaires pas tout seuls. Aucun d'entre nous n'a la réponse à des problèmes complexes, et pour ça il faut avancer, faire avancer le monde politique. Le gouvernement avance, a là peut-être pas des injonctions mais des incitations très très fortes et probablement très utiles pour que nous-mêmes nous cassions nos propres enfermements, nos propres méthodes de travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est quand même un beau moment où vous avez trois représentants de trois ministères ensemble. C'était non pas ils ont marché sur la Lune, mais on est presque dans les sciences participatives, on est là à un grand moment. Donc on a fait ce pas, on a fait ce pas ensemble et on doit continuer. Donc je ne peux qu'appeler de mes voeux à continuer à marcher sur la Lune ensemble.
Non, c'est ce que tu as dit très bien. D'ailleurs, je te remercie, je remercie Astrid de m'avoir invité dans la journée. Mais je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau, le fait qu'on se connaisse déjà, qu'on a des contacts, on se voit assez régulièrement, ça contribue à ça. Ça passe aussi par ça. Après, il faudrait que ça quitte le niveau des personnes pour rentrer dans le niveau institutionnel. Là, on est dans le niveau des personnes. Ça peut être conjoncturel, purement conjoncturel, parce qu'on s'est rencontrés, qu'on a des bonnes relations. C'est pas de l'esbrouf, là, c'est réel. Mais se dire maintenant, le jour où l'un de nous, trois par quatre, avec Astrid là, change de poste, est-ce que ça va continuer à fonctionner comme ça? Aujourd'hui, il n'y a rien qui le dit, parce qu'institutionnellement, il n'y a rien d'écrit. Donc le but, c'est quand même de multiplier des journées comme ça, de multiplier les occasions de rencontre entre nous, formelles et informelles, pour créer cette dynamique et montrer que au niveau ministériel, avec nos établissements publics, évidemment avec le muséum, avec on a tout un réseau scientifique et technique aussi au sein du ministère, au niveau de la culture pareil, au niveau du ministère de la recherche pareil, c'est arriver à générer ça, mais il faut avancer sur les deux aspects. Aujourd'hui, on est essentiellement sur un aspect, l'aspect institutionnel, il a plus de mal à se mettre en place parce que c'est compliqué, comme je disais, c'est déjà compliqué de travailler au sein d'un ministère avec ses propres partenaires. Travailler en interministériel, c'est un autre niveau de complexité. C'est pas, faut arriver à montrer que ça peut apporter quelque chose, que ça apporte quelque chose, et c'est les collaborations croisées qui montreront que ça marche.
Peut-être je vais dire juste un mot, parce qu'il se trouve que j'étais ici même hier pour un forum des cadres de l'administration centrale du grand ministère Éducation nationale, jeunesse et enseignement supérieur, recherche, innovation. Et il se trouve que le sujet qui était à l'ordre du jour, c'était la transversalité. Alors peut-être dans les ministères, on a l'impression qu'on découvre ce que c'est que la transversalité, parce que vous savez que c'est des institutions qui sont magnifiques pour favoriser le fonctionnement en silo, et du coup on a tout un chantier et un travail considérable avec l'inertie qui est caractéristique de nos structures pour favoriser les disciplines. Et j'ai envie de me faire l'écho des propos de Philippe Mauguin, qui est le président directeur général de l'INRA, qui nous expliquait que pour favoriser cette transversalité, il y a absolument besoin de l'organiser à travers la transversalité d'une part des disciplines, parce que les sujets et les défis auxquels on doit faire face dépassent tous les disciplines, et on va pas trouver des réponses au réchauffement climatique ou à l'effondrement de la biodiversité juste en prenant une catégorie de chercheurs, aussi brillants soient-ils, et puis d'autre part à la transversalité des acteurs. Et là-dessus, je crois qu'il faut qu'on soit très très vigilant à progresser, parce que sur des sujets sciences société, sciences participatives, on a besoin d'une collaboration transversale entre universitaires, étudiants, élus, collectifs, associations, entreprises aussi. Ça me nécessite de mettre en place une infrastructure peut-être, ou une transversale de bon niveau, qui permette effectivement de dépasser ce niveau personnel, interpersonnel, pour que ça devienne quelque chose de structurel. Encore du chemin à faire, mais voilà, on essaie de porter ce discours-là.
Merci. On va prendre deux autres questions.
On avait une autre question, proposition assez précise, sur la question des politiques publiques, les impulsions qu'on peut donner à la recherche participative. Par exemple, à quand une commission d'évaluation des projets citoyens pour faire avancer tout ceci qui existe déjà de façon indépendante des institutions? Donc est-ce qu'il faut donner un cadre, est-ce qu'il faut donner un périmètre en fait à la recherche culturelle, aux sciences participatives, ou est-ce qu'il faut simplement donner les moyens en fait, quelle doit être l'interaction entre... Enfin, en tout cas, la question est posée comme ça, après j'essaie de...
Il est possible que la personne qui a posé la question précise son idée, hein, si elle le souhaite.
C'est anonyme.
Alors, ouais, si elle le souhaite.
Oui, tel que je comprends la question, c'est un peu ce que j'essaie de présenter avec la commission Repair, là, qui était justement cette façon de d'évaluer non pas la qualité de la production, mais la qualité de l'association entre chercheurs et citoyens et habitants. Est-ce qu'il faut le faire de façon plus structurée, organisée, avec mettre ça en place de façon interministérielle? C'est une question qu'on se pose et j'aimerais bien avoir le temps de l'expérimenter plus. Quelque part, ce qu'a fait l'ADEME avec Sciences Citoyennes autour de leur programme de recherche participative CO3, vous avez créé cette commission pour évaluer les projets qui sont déposés dans le cadre du financement de ce programme, ce qui montre qu'il y a effectivement un besoin, ça existe, et ponctuellement à l'occasion d'un programme comme celui-ci, l'équivalent de la commission Repair a été créé pour évaluer les programmes. Donc le besoin existe de façon assez claire. Est-ce qu'il faut l'institutionnaliser à l'échelle portée par un ministère, par plusieurs ministères? C'est une question. Est-ce que ça peut fonctionner de façon assez autonome? J'ai pas de réponse là-dessus. C'était une des questions qu'on se posait.
Oui, je dirais, vous avez sans doute compris que la démarche pour la culture était une démarche d'incitation et là je vais refaire les trois piliers de quelles sont les missions assignées à l'État aujourd'hui, c'est incitateur, stratège et évaluateur. Donc on est dans une démarche d'incitation auprès des chercheurs pour être en contribution à l'élaboration de la prochaine stratégie ministérielle de recherche du ministère de la Culture 2021-2055, c'est ça Astrid? Non, 2021. Il y a eu une question sur 2030 ce matin. 2021-2025. Et le troisième rôle qui nous est donné, c'est bien sûr l'évaluation. Donc là, je reviens à la notion à ce que tu viens de dire. Il y a les labels. Ministère de la Culture, on connaît bien les labels. La politique des labels, je pense qu'on a le prix Nobel des labels, de l'attribution de labels. On en a recensé un certain nombre. Donc, est-ce que le label, c'est une forme d'évaluation? Est-ce qu'on est dans la labellisation via des commissions? Est-ce qu'on est sur une évaluation faite par de l'auto-évaluation, ou ce qui m'a semblé très intéressant dans votre démarche, c'est aussi l'accompagnement avec des tiers veilleurs, parce que l'évaluation, là, elle doit être aussi comprendre toutes les parties prenantes, j'imagine, dans les sciences participatives. Je ne peux pas, même si, et je réponds aussi à la question précédente, bien sûr qu'on a besoin de normes, n'oublions pas qu'on parle aussi. Il ne faut pas noyer les difficultés, mais on parle aussi de participation, on parle de société, mais on parle aussi de science. Et là, il y a aussi des normes qui cadrent la production scientifique. Donc il faut articuler les normes de la science avec je ne parlerai pas des normes de la société, mais au moins les normes des politiques d'évaluation. Donc comment le faire pour cet objet? Est-ce qu'on reprend les mêmes évaluations? Est-ce que les appels à projets sont des méthodes d'évaluation? On voit au niveau européen que la Commission européenne a aussi des méthodes d'évaluation. Est-ce qu'il faut une méthode spécifique d'évaluation des projets recherche culturelle et sciences participatives? Je crois que le débat est ouvert, et est-ce qu'il doit... Mais de toute façon, ne nous cachons pas, il y aura toujours évaluation. Ce matin, on a parlé, et madame, vous avez parlé de Wikipédia. Wikipédia est le plus grand système d'évaluation au monde. Tout propos, toute phrase est évaluée par tous, dans le monde entier. Donc là, je crois qu'il faut... C'est la plus grosse plateforme d'évaluation, c'est Wikipédia. Je pense qu'on... Diffusion des connaissances, mais évaluation et auto-évaluation. C'est un exercice intéressant aussi.
Juste un mot pour compléter, du coup, sur la question, si je l'ai bien comprise. Si la question est faut-il un cadre ou exclusif des moyens, j'ai envie de répondre les deux en général. Après, c'est que mon avis peut-être personnel, je passez-moi de vous le donner. Du coup, ensuite, sur les trois missions de l'État, je pense que sur l'aspect incitateur, cette mission confiée à François Ollier et dont il s'est acquitté brillamment avec ce rapport dont les suites sont... On discute finalement grâce à aussi cette belle réflexion qu'il a menée, qui avait déjà fait l'objet de plusieurs réflexions en amont. Stratège, dans la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle, il y avait aussi une dimension d'association, de participation de la société civile, et puis évaluation. Je pense qu'il faut peut-être distinguer deux choses. Il y a l'évaluation scientifique, d'un côté, où là, je crois qu'il faut quand même garder les pieds sur terre et garder le principe de l'évaluation par les pairs telle qu'elle se fait dans le monde scientifique actuellement. Et puis, il y a aussi l'évaluation du dispositif participatif, ce qui est une chose différente. Et on n'évalue pas des modalités de participation à un dispositif de science participative de la même manière, a priori, qu'on évalue une avancée scientifique. Voilà, c'est juste un petit mot.
Très bien, merci. Alors, il nous reste 5 minutes pour cette table ronde et puis ensuite, nous passerons à la suivante. Je propose qu'on prenne encore une question.
Ouais. Alors, deux questions qui reviennent au sujet de l'interpluridisciplinarité. Alors, la plupart des gens sont d'accord avec le principe, mais ils sont confrontés à deux problèmes majeurs. Tout d'abord, le fait que les recherches... est-ce que ça s'intègre des problèmes... Les chercheurs sont évalués, ils ont des exigences, et on a un témoignage qui dit les collègues qui s'impliquent sont souvent évalués comme perdre leur temps, etc. Voilà, ils sont évalués, est-ce qu'ils peuvent mettre en place des projets de sciences participatives? Et l'autre gros problème aussi qui se pose, c'est vis-à-vis de... Oh, j'arrive pas à lire... Ouais, bon, déjà répondez sur cette question sur l'évaluation, parce que voilà, c'est un peu compliqué.
Ok, peut-être je me sens un tout petit peu désigné responsable pour répondre à la question. Je crois qu'il faut profondément qu'on change, qu'on évolue dans les mentalités. C'est-à-dire, ça me semble inacceptable au XXIe siècle de considérer que partager, s'ouvrir à la société pour un chercheur équivaut à perdre du temps. Enfin, c'est juste qu'on change un petit peu de paradigme mental, je crois. Juste deux exemples sur lesquels... j'ai envie de parler et de m'exprimer pour rebondir et illustrer ce propos et échanger un petit peu des quelques exemples qu'on donne régulièrement quand on parle de sciences participatives. Il y a une réflexion actuellement dans le monde universitaire sur les jeux sérieux et la façon de recueillir des learning analytics dans les scénarios de jeu pour nourrir ensuite, grâce aux traces d'apprentissage laissées par les joueurs, nourrir la recherche. Donc ça veut dire que la recherche prend en compte, en quelque sorte, la participation des joueurs à ces dispositifs. Deuxième exemple que j'ai envie de partager avec vous, c'est les observatoires homme-milieu. Dans cette période où il fait un petit peu chaud, j'ai envie de vous parler du projet qui s'appelle Nunavik, qui associe des populations inuites à des projets de recherche. C'est un institut du CNRS, du Centre des études nordiques et de l'association régionale du Grand Nord canadien, pour finalement associer les populations locales à une réflexion hyper transdisciplinaire, si j'ose dire, parce que où il y a des grandes spécificités locales, 41% de la population a moins de 20 ans, énorme ressources minières dans le sol, et tout ça évidemment a fait l'objet d'un certain nombre de convoitises, vous vous en doutez bien, ce qui a profondément changé les populations locales. Donc il s'agit maintenant de prendre en compte ceci, et comment prendre en compte ceci sans considérer les premiers concernés, qui sont justement ces Inuits. Donc du coup, j'ai envie de répondre à cette question en disant que oui, bien sûr qu'il faut s'ouvrir à la société, et ces deux exemples que j'avais envie d'évoquer, j'espère, l'illustrent.
Sur ce point, dans le colloque qu'on avait tenu l'année dernière pour clore le programme Repère, évoquait cette question de l'évaluation pour les chercheurs et comment ça s'intégrait dans le parcours d'un chercheur. Et c'est vrai que c'est une vraie difficulté. On avait des... un peu deux cas de figure qui se présentaient dans les profils de chercheurs qui accompagnaient les programmes. C'était soit des chercheurs en fin de carrière qui avaient plus d'enjeux de carrière et de publication derrière eux, donc ils étaient assez dégagés de toute cette contrainte et ils pouvaient quelque part voir ça comme une façon aussi de respirer, d'aller voir autre chose, de se faire plaisir là aussi, d'aller quitter la production imposée par le labo. Et de l'autre côté, c'était des jeunes chercheurs, mais plutôt pas encore intégrés dans le domaine de la recherche et qui n'arrivaient pas à percer forcément et qui trouvaient une façon d'aller vers des sujets qui étaient nouveaux, mais du coup, qu'ils n'arrivaient pas plus à valoriser ces travaux, mais ils étaient déjà un peu en marge du monde de la recherche. Et comment arriver à résoudre le problème? Alors c'est loin d'être là. Une fois qu'on a posé le diagnostic, comment on répond à ça? Mais t'es un peu abordé avec ce que tu disais sur la loi de programmation de la recherche, l'idée de l'intégrer mieux. On avait, avec Astrid, à l'ANR, on avait réussi à porter que en sciences humaines et sociales, la recherche participative soit une modalité de recherche et pas un sujet de recherche. Donc c'était une première victoire, on était assez contents là-dessus, de se dire que l'ANR reconnaissait que les équipes de recherche participative pouvaient être financées. Après qu'elles puissent l'être, c'est une autre question, mais au moins ça sortait le sujet. Et je pense que c'est un combat qu'il faut arriver à mener. Il n'y a pas une réponse simple, mais il faut arriver à montrer que ça peut aussi produire de l'excellence scientifique. Je pense que on a une équipe qui a travaillé sur la vigne en Alsace, qui a produit des publications dans des revues de rang A et qui, à partir de recherches participatives, donc a montré que on pouvait produire aussi de la recherche de plus haut niveau grâce en faisant de la recherche participative. Et c'est une accumulation d'actions de cette nature-là qui permettra de montrer qu'on peut en faire quelque chose. Mais c'est pas naturel, c'est pas inné. Aujourd'hui, c'est encore un combat à mener. Mais tout élément qui montre l'apport à la fois social, mais aussi de recherche, parce que si pour un chercheur, il faut que ce soit d'abord de la recherche. C'est un travail.
Merci. Donc on va conclure avec Sonia.
Juste avant de conclure, puisque la discussion portait sur l'évaluation, que j'ai cité le congrès de l'AMSTI et la reconnaissance, on a parlé de l'évaluation des chercheurs, on a parlé de l'évaluation des dispositifs, des politiques de recherche, et on a un peu oublié en chemin les citoyens. Et au congrès de l'AMSTI, une proposition a été faite qui est une forme d'innovation qui n'est pas de l'évaluation, mais ou alors de l'auto-évaluation. Ce sont les dispositifs d'open badge. Les open badge sont des badges. Je regarde Bruno Dosseur qui est dans la salle, qui pourra probablement en parler. C'est ce qui permet d'équiper sous une base volontaire le citoyen qui participe à une activité de connaissance. Il a un badge numérique et il peut valoriser, évaluer sa participation avec son propre badge, un open badge. Donc là, je vois, on a les dispositifs formels de l'évaluation de la recherche des institutions et des politiques, et on a non pas l'évaluation, mais la contribution, le poids, la reconnaissance de la participation d'individus via des dispositifs qui sont nés aux États-Unis, qui sont les badges ouverts, hein, les open badges. Vous chargez, aujourd'hui par exemple, si vous aviez un open badge, vous mettez, j'ai participé au colloque, j'ai appris ça, 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 ça et ça, et demain vous allez ailleurs. Donc c'est une espèce d'accumulation de compétences formelles et informelles qui elles-mêmes pourraient être évaluées dans le cadre de dispositifs formels de reconnaissance de diplôme et de reconnaissance de compétences avec l'évolution des métiers. Donc la conclusion, c'est tout est la conclusion, elle sera en fin d'après-midi. Voilà.
Merci Sonia. Voilà, on va clore cette table ronde ici. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Et puis nous allons laisser la place à la dernière table ronde de la journée.